Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, essayez de vous imaginer la scène. On est en plein cœur d'un festival agricole en Chine.
Ouais, un festival pour la pluie, spécifiquement.
C'est ça. Et les prêtres locaux jurent solennellement que le ciel va rester vide, que cette sécheresse, c'est la preuve ultime de leur divinité locale.
La pression devait être énorme sur place pour le coup.
Ah bah totalement. Et là, t'as un petit groupe de personnes qui se met contre toute attente à prier pour la pluie. Et ce qui suit, c'est pas juste une petite averse, c'est un déluge.
Un déluge absolu, ouais.
Une tempête d'une telle violence qu'elle balaye littéralement le festival et détruit les statues de la divinité en question. Et le truc complètement fou ici, c'est qu'on n'est pas du tout en train de lire le script d'un film fantastique.
Non, pas du tout. On décortique une analyse académique très sérieuse. Et je suis vraiment ravie qu'on aborde ça aujourd'hui parce que c'est toute la force de notre exploration. On part d'une conférence donnée par le docteur Craig Kinner.
Un universitaire super reconnu d'ailleurs.
Exactement. Et il se penche sur un texte qui a plus de 2000 ans en fait. Les versets 13 à 33 du chapitre 15 de l'Épître aux Romains.
Et honnêtement, pour quiconque lit ce texte sans le contexte, ça a l'air super aride, non ? Ça ressemble juste à une vague lettre de bénédiction.
C'est vrai, une bénédiction suivie d'un itinéraire de voyage un peu flou d'un dénommé Paul. À première vue, ça ne casse pas trois pattes à un canard.
Sauf que Kinner prend ce texte antique et il le fait violemment entrer en collision avec notre époque. La mission de notre plongée dans ces sources aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment ces quelques lignes cachent des leçons vertigineuses.
Des leçons sur la psychologie humaine, ouais.
Sur la réconciliation entre des peuples qui se haïssent et sur ces moments précis où repousser les frontières de l'inconnu provoque des trucs, des phénomènes qui défient la logique.
C'est clair. On va parler de racisme sur les campus américains et de contrôle météorologique en Afrique. Tout ça à partir d'une lettre antique, c'est fascinant.
Mais avant d'en arriver au miracle, il y a un truc que Kinner souligne, c'est l'état d'esprit de Paul. Parce que pour aborder des sujets aussi explosifs, il faut préparer le terrain, non ?
Ouais, tout à fait. Et Kinner s'attarde longuement sur un concept super précis. Il cite d'ailleurs le théologien Jürgen Moltmann là-dessus. Le point de départ, c'est vraiment la redéfinition totale du mot espérance.
Ah oui, parce que dans notre langage de tous les jours, l'espérance, c'est devenu l'équivalent de jeter une pièce dans une fontaine, quoi.
C'est exactement ça.
On dit genre « j'espère qu'il fera beau » ou « j'espère avoir cette promotion ». Et au fond, ça veut dire qu'on croise les doigts mais qu'on n'a absolument aucun contrôle. C'est une espèce de résignation déguisée.
Bah, Moltmann, et du coup Kinner dans son analyse, il rejette complètement cette définition passive. Dans ce texte, l'espérance s'est définie comme une attente active.
Une attente active, d'accord.
Ouais, une confiance inébranlable, en fait. L'idée, c'est que cette espérance, elle se contente pas d'attendre dans son coin. Elle modifie directement ton comportement dans le présent.
Ça te met en mouvement.
Voilà, c'est intimement lié à une joie et une paix qui viennent d'une conviction profonde. Pour faire simple, si tu es absolument certain de ta destination finale, bah tu marches différemment, tu respires différemment. C'est une vraie force motrice.
Et cette distinction, elle change tout, en fait. Et dans les notes de Kinner, on voit très bien comment Paul utilise cette énergie psychologique pour communiquer avec une audience qu'il connaît pas encore très bien, les Romains.
C'est là qu'on voit son intelligence émotionnelle. Le texte parle de sa hardiesse, mais c'est pas la hardiesse d'un tyran.
Ouais, il vient pas juste faire la morale.
Non, parce que dans l'Antiquité, il y avait souvent cette opposition très binaire. D'un côté, la flatterie, dire ce que les gens veulent entendre pour les manipuler, et de l'autre, l'hardiesse, dire la vérité brutale, quitte à blesser.
Et lui, il choisit quoi ?
Il opte pour la vérité, mais calibrée de manière brillante. Il utilise la méthode du rappel. En gros, il leur dit « Je suis convaincu que vous êtes déjà remplis de bonté et de connaissances. Je prends juste la plume pour vous rafraîchir un peu la mémoire. »
Ah, c'est malin ça. Ça me fait penser à un entraîneur de très haut niveau qui débarquerait dans une équipe de pros.
Ah oui, la fameuse analogie du coach.
Bah oui, parce que s'il arrive en disant « Vous êtes tous nuls, on reprend les bases », il perd son vestiaire à la seconde. Par contre, s'il dit « Bon, je sais que vous maîtrisez le sport, vous êtes l'élite, on va juste se remémorer notre stratégie pour être imbattable », là, il contourne les défenses psychologiques.
C'est la diplomatie parfaite pour pas froisser les égos.
Exactement. Et honnêtement, pour quiconque nous écoute et qui doit gérer des tensions au bureau ou même naviguer dans des repas de famille un peu compliqués, c'est une sacrée leçon. Valider les fondations de l'autre avant de le recadrer.
Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut voir que Paul fait pas ça juste pour le plaisir d'être sympa. S'il prend autant de gants, c'est parce qu'il s'apprête à leur demander un truc, un projet qui, sociologiquement, à l'époque, est totalement impensable.
Ah, on entre dans le dur de la conférence, là. La réconciliation ethnique.
Elle est gentille, finance une collecte de fonds.
Et pas pour n'importe qui.
Non, pour l'Église juive de Jérusalem. Et pour comprendre l'ampleur du truc, il faut se replonger dans le fossé culturel de l'époque. Juifs et gentils vivaient dans une méfiance, voire un mépris total. Des siècles de séparation religieuse et sociale.
Donc, demander aux gentils de donner de l'argent pour sauver la communauté juive, c'est exiger une solidarité transethnique complètement dingue pour l'époque. Ça va contre tous leurs instincts de préservation.
C'est ça. Et c'est là que Kinner amène son argument théologique central, l'argument du « à plus forte raison ». En gros, si la divinité a délibérément fait s'effondrer la barrière historique colossale qu'elle avait elle-même instaurée entre ces deux groupes,
ouais.
Alors, comment des humains pourraient-ils justifier de maintenir leurs propres barrières culturelles et ethniques, qui sont, elles, totalement artificielles?
Ah ouais, c'est redoutable comme argument. Et pour prouver que c'est pas juste un débat d'historien, Kenner va l'ancrer dans des récits super personnels. Je pense au premier exemple qu'il donne, quand il arrive à Durham, en Caroline du Nord.
Oui, cette histoire est super marquante.
Elle est même poignante, parce qu'elle commence dans un moment où il est ultra vulnérable. Il raconte qu'il vient de perdre son père. Il est en deuil, épuisé, il a marché sous le soleil. Il arrive dans un petit motel et il demande naïvement à la réceptionniste blanche s'il y a des apparts à louer dans le quartier d'à côté.
Et la réponse de la réceptionniste, elle est d'une violence raciste, frontale. Elle lui interdit presque d'y aller. Elle sous-entend que comme le quartier est habité par des Noirs, sa vie serait en danger là-bas.
Et ce qui est fou, c'est que Kenner, je sais pas, peut-être guidé par l'épuisement ou le deuil, il l'ignore et il y va quand même.
Et le contraste avec ce qu'on lui avait vendu est radical. Au lieu de l'hostilité, il tombe sur une grand-mère afro-américaine. Et face à ce jeune blanc perdu, elle voit pas le camp d'en face, elle voit juste une détresse humaine.
C'est magnifique, ouais.
Elle l'accueille chez elle, lui prépare 3 énormes assiettes pour le requinquer et elle l'intègre dans sa communauté. Kenner insiste vraiment sur le fait que c'est cette communauté précise, celle qu'on lui avait dit de fuir, qui lui a permis de faire son deuil.
C'est vraiment l'incarnation du dépassement des frontières qu'exigeait Paul. Mais bon, Kinner est pas naïf pour autant. Il sait que c'est un combat de tous les jours. Il mentionne aussi l'histoire de son ami Arthur à l'université Duke.
Ah oui, dans un cadre censé être hyper progressiste en plus.
C'est ça. Et pourtant, le tout premier jour, un prof prend Arthur à part pour l'intimider et le forcer à abandonner le cours, direct. Et d'après Kinner, la seule raison, c'était la couleur de peau d'Arthur. Le prof assumait qu'il n'avait pas le niveau intellectuel.
C'est choquant. Mais Arthur a refusé, il est resté et il a fini par avoir un A. La note maximale.
Faut une résilience de malade mental pour performer quand ton environnement te rejette aussi ouvertement. Mais l'analyse va encore plus loin, avec le témoignage de la propre femme de Kinner.
Elle est originaire du Congo, si je me souviens bien, oui. Et ce qu'elle raconte sur les différentes strates du racisme est essentiel. Quand elle est arrivée en France, le racisme à l'embauche était tellement systémique qu'elle avait mis au point une stratégie assez glaçante.
Ah oui, le coup du téléphone.
C'est ça. Elle annonçait sa couleur de peau dès les premières secondes de l'appel pour un boulot. Pourquoi pas? Juste pour éviter de payer un ticket de bus pour aller à un entretien où elle savait qu'elle serait recalée en arrivant.
C'est d'une violence froide, super calculée. C'est économique, quoi.
Mais elle apporte une nuance capitale. Elle affirme que le pire racisme qu'elle ait connu, c'est pas cette discrimination en Europe. C'était la haine ethnique dans son propre pays, au Congo. Une haine tellement viscérale qu'elle a dû fuir dans la forêt pendant 18 mois pour échapper aux massacres intertribaux.
Waouh! Ça montre bien que le rejet de l'autre, c'est pas le monopole d'une seule culture. D'ailleurs, Kinner parle d'une leçon qu'il a reçue à l'église d'Orange Grove.
À un moment où il était très en colère contre toutes ces injustices, oui.
On y a expliqué que l'égoïsme humain, ce truc qui pousse un groupe à en détester un autre, bah c'est universel. La couleur de peau, c'est juste le prétexte visible d'une maladie beaucoup plus profonde.
Et si on comprend ça, que l'égoïsme est universel, alors la solution doit l'être aussi. Du coup, Kinner applique ce principe de Paul à des clivages contemporains massifs. Il cite Watchman Nee, le leader chinois.
L'histoire après la guerre, là?
Oui. Juste après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, Watchman Nee a été vu en train d'enlacer publiquement un chrétien japonais.
Politiquement, c'est un suicide à cette époque-là. C'est presque de la trahison.
C'était impensable. Mais l'analyse montre que l'identité spirituelle est supposée écraser la haine historique. Et la source rapporte plein d'autres exemples, toujours de manière super neutre. Hein.
Oui, on ne prend pas parti, on analyse la conférence.
Voilà. Il liste les tensions en Ukraine et en Russie, les conflits de caste en Inde entre les brahmanes et les dalites, et même la polarisation politique actuelle aux États-Unis entre démocrates et républicains. Le message, c'est que faire primer une identité transcendante sur nos clans, c'est le défi ultime.
Mais bon, pour imposer une idée d'unité aussi radicale dans un monde aussi fracturé, il suffisait pas d'envoyer 2-3 lettres bien écrites, quoi. Paul, il a dû se déplacer physiquement. Et ça nous amène à la troisième phase de notre exploration.
Repousser les frontières géographiques.
Et même repousser les limites du rationnel, pour le coup.
La stratégie territoriale de Paul, elle est hyper claire. Son credo, c'était « ne pas bâtir sur les fondations d'un autre ». Il refusait de prêcher là où d'autres l'avaient déjà fait. Il cherchait l'inédit.
Son parcours est dingue, d'ailleurs.
Il part de Jérusalem, traverse l'Orient, remonte par la Via Egnatia jusqu'en Illyrie, les Balkans actuels. Et son obsession absolue, c'était l'Espagne.
Ouais, alors l'Espagne, bon, pour nous, c'est une destination sympa pour les vacances en Europe, mais faut se mettre dans le logiciel d'un gars de l'Antiquité. L'Espagne, c'était la fin de la carte, les extrémités de la Terre.
L'Atlantique marquait la limite du monde connu, ouais.
Donc atteindre l'Espagne, c'était littéralement achever la mission globale. Mais c'est pas sa géographie qui est le plus controversée dans l'analyse de Kinner. C'est sa méthode d'expansion. Le texte dit que ça s'est fait par la puissance de signes et de prodiges.
En d'autres termes, par des miracles, oui.
Bon, attends, on fait une petite pause là. Kinner, c'est une universitaire hyper respectée. On est sur une analyse sérieuse. Comment il justifie de parler de miracles littéraux, genre des guérisons ou du contrôle météo, dans un papier académique, il risque pas de se décrédibiliser ?
C'est une objection super valide. Mais Kinner l'aborde pas sous l'angle du mysticisme aveugle. Il l'analyse sous le prisme de la sociologie religieuse.
Ah, d'accord.
Il fait un parallèle avec l'Exode et Moïse. Sa thèse, c'est que l'argumentation philosophique pure ne suffit quasiment jamais à faire basculer les croyances de populations entières dans des zones non évangélisées. Ce qui brise le statu quo, ce sont ces manifestations inexplicables.
C'est marrant, ça me fait grave penser au lancement d'une technologie de rupture sur un marché vierge.
Comment ça ?
Bah, si tu arrives avec un manuel explicatif de 300 pages, personne t'écoute. Les habitudes sont trop ancrées. Il faut une démo en direct, un effet waouh qui casse les lois de la physique connue pour que les gens remettent tout en question d'un coup.
Mais c'est exactement ça. L'analogie est parfaite et Kinner illustre cet effet waouh avec des exemples documentés complètement dingues. Prenons le cas de la région de Nikeri, au Suriname.
Vas-y.
Des missionnaires européens étaient là depuis des siècles. Ils distribuaient des tracts, faisaient des discours, mais la population locale restait attachée à ces traditions. Le manuel explicatif ne marchait pas.
La fameuse résistance.
Jusqu'au jour d'un rassemblement public, où un vieil homme s'avance. Tout le village savait que cet homme avait un bras complètement paralysé depuis des années. Et là, il défie l'orateur de prouver la réalité de son message.
Et qu'est-ce qui se passe ?
Selon le récit, à l'instant même du défi, le bras du vieillard s'est levé d'un coup. Il a retrouvé toute sa mobilité devant toute la foule.
L'impact psychologique dans un petit village où tout le monde se connaît, ça doit être un séisme. C'est pas une rumeur, c'est ton voisin qui vient de briser les lois médicales.
Les conséquences sociologiques ont été immédiates, ouais. Kinner note que cet événement a déclenché des dizaines de milliers de conversions dans la région. C'est l'anomalie indiscutable qui a balayé l'obstacle, pas le discours.
Et ça va encore plus loin quand on touche aux éléments naturels. On a commencé avec cette histoire en Chine, là, avec Watchmen Nee et John Sung, et leur déluge pendant le festival.
Ouais, une confrontation de pouvoir directe.
Mais il y a un autre récit qui m'a scotché. C'est celui au Nigeria, avec le père du docteur Emmanuel Etopson. C'est presque banal au départ.
Oui, très terre à terre, son père essayait juste de construire un toit pour sa maison. Le souci, c'est qu'on était en pleine saison des pluies. Donc tout le village se moquait de lui, à juste titre.
Et là, il craque.
Sous le coup de la colère, oui. Il prie pour que la pluie s'arrête, spécifiquement pendant les 4 jours dont il a besoin pour finir ses travaux.
C'est incroyable. Prier sous la colère pour bloquer un cycle météo, faut une dose massive d'espérance active.
Et le résultat rapporté est d'une précision chirurgicale. Il a continué de pleuvoir des trombes d'eau dans toute la région, mais pas une seule goutte sur le périmètre exact du village pendant ces 4 jours.
La démonstration de force parfaite.
C'était tellement spécifique que ça a convaincu presque tous les habitants. Qu'on regarde ça par la foi ou par la sociologie des foules, l'argument tient. L'inexplicable ouvre les frontières.
Ancienne, il nous rentre un peu dedans.
C'est le coup de grâce de sa conférence. Il pose un constat démographique hyper froid. En 1800, on était 1 milliard sur Terre. Aujourd'hui, on est presque 7 milliards.
Ça fait vertige, ouais.
Donc, si ce message d'unité et de réconciliation était urgent au 1er siècle pour quelques millions de personnes... Mathématiquement, il l'est 7 fois plus aujourd'hui.
Les enjeux sont décuplés. Et face à ça, il n'est pas tendre avec notre gestion du temps. Hein.
Il est même perplexe face à l'apathie moderne. Il pointe la quantité faramineuse d'heures que les gens consument dans le divertissement.
Des films, les réseaux sociaux, tout ça.
Exactement. Il met ce temps perdu en balance avec l'urgence d'atteindre les populations marginalisées.
Il rappelle que la méthode de base, celle de Jésus, c'était pas de rester dans son cercle de confort, c'était d'aller vers les exclus, les marginaux, ceux qu'on considérait indignes.
Si on met toutes les pièces du puzzle ensemble, ça oblige quiconque nous écoute en ce moment à se poser de vraies questions. On a vu l'espérance active, l'empathie comme arme pour détruire les haines ethniques, l'énergie pour repousser les frontières. La question, c'est comment on utilise notre temps? Et surtout, qui est l'autre pour nous aujourd'hui?
C'est ça. Sommes-nous prêts à accepter l'inconfort pour jeter des ponts par-dessus ces fossés que la société a creusés?
Et ça me laisse avec une réflexion finale. À l'époque, l'Espagne, c'était la fin de la terre ferme. Mais aujourd'hui, alors que la carte du monde est ultra-numérisée, explorée au millimètre, quelle serait notre Espagne à nous?
C'est une bonne question.
Est-ce que notre ultime frontière à conquérir, c'est encore géographique? Ou est-ce que ça se trouve désormais dans ces algorithmes opaques qui nous séquestrent dans nos bulles de certitude? Peut-être que notre extrémité de la Terre se trouve juste dans ces fossés idéologiques qui, paradoxalement, nous séparent du voisin qui vit sur le même palier.